Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un très grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion et nous vous proposons aujourd'hui un entretien qui a été enregistré le 20 novembre dernier en Côte d'Or à Semur-en-Auxois dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons, un événement littéraire initié par Cyril Lefebvre de la librairie de La Poste à Semur-en-Auxois. Nous remercions également Yannick Perrin qui nous accueille dans sa galerie de peinture au 2 bis rue du Bourg voisin à Semur-en-Auxois. Il est le voisin de la librairie de La Poste de notre ami Cyril. Et puis avant de vous présenter notre invité, je voudrais saluer aussi l'assemblée qui nous accompagne, le public curieux et attentif que je remercie de sa présence. Merci cher public. Alors cette fois-ci, je me dois d'introduire notre invité à ce cercle des auteurs bourguignons. Bonjour Loïc Rousseval.
Bonjour Yannick, bonjour à tous.
Alors Loïc Rousseval, nous vous recevons à l'occasion d'une récente parution d'un petit QCM, c'est le QCM Météo et Climat, avec ce sous-titre « Un livre dans l'air du temps ». Et puis un ensemble de questionnaire à choix multiples avec des illustrations souriantes de Jérém. C'est paru aux éditions Lire à l'Est. Alors effectivement, présenter un QCM sur le climat, sur la météorologie, je pensais que ce serait compliqué. Mais en fin de compte, Loïc Rousseval étant aussi un bavard, je me propose déjà, avant que de rentrer dans les thématiques abordées dans cet ouvrage, Loïc, de faire un peu connaissance avec vous. Vous êtes présentateur météo à la radio et à la télévision. Alors je sais que vous avez travaillé pour iTélé, qui est devenue ensuite la chaîne CNews, que vous avez un temps remplacé Laurent Romeshko, avec lequel d'ailleurs vous avez produit un jeu, le grand quiz « Préservons la planète » chez Larousse. Alors j'aimerais que vous nous disiez où on peut vous entendre et vous voir, Loïc Rousseval, parce que moi je n'ai pas de télévision.
Alors, dernièrement j'étais sur CNews, effectivement, pendant plus de 10 ans. J'animais également sur Europe 1 pour présenter la météo. J'ai fait une petite pause justement pour sortir ce livre, mon premier livre, le QCM Météo et Climat, avant de revenir sur les ondes prochainement, dans quelques mois, mais j'en dirai pas plus tout de suite, ça reste confidentiel.
Alors, la quatrième de couverture nous dit que vous êtes d'origine bretonne et écossaise.
Oui, alors ça c'est une longue histoire. Je savais que j'avais des grands-parents bretons, mais je n'avais pas plus d'informations sur ma famille que ça. J'ai fait un arbre généalogique il y a quelques années. Et j'ai pu remonter effectivement jusqu'en 1678 sur les origines de ma famille en Bretagne. Et il s'avère en parallèle que j'ai découvert l'Écosse il y a à peu près 15 ans. Je suis tombé amoureux de ce pays dès ma première visite. Pour la petite histoire, c'est mon parrain qui m'a convié en Écosse pour visiter Édimbourg. Je suis tombé amoureux de cette ville. Et je me suis retrouvé à aller 3-4 fois par an en Écosse tellement que j'aimais ce pays. Et en faisant mon arbre généalogique, je me suis arrêté effectivement en Bretagne en 1678. Et j'étais persuadé tellement que j'aimais l'Écosse que j'avais des origines qui venaient de là-bas, tellement je me sens chez moi quand je vais en Écosse. Et je continue à y aller très régulièrement. J'ai même d'ailleurs un appartement là-bas. J'ai fini par investir à force d'y aller 3-4 fois par an. Et à ma grande surprise, suite à mon arbre généalogique qui a donc été bloqué, ce qui est déjà pas mal, hein, de revenir jusqu'à 1678, c'est
déjà un beau travail,
génération,
et beaucoup d'efforts.
Je fais un test génétique. C'est interdit en France aujourd'hui, depuis l'année dernière, je crois. Mais en Écosse, on peut le faire. Je fais un test génétique et mon test ADN me révèle que je suis à 40% écossais et anglais. Sans le savoir. Donc, mon intuition était la bonne. J'ai bien des origines écossaises, anglaises, et c'est une anecdote assez jolie, je trouve.
La quatrième de couverture de votre ouvrage précise que vous vivez entre Paris et la Bourgogne. Mmh. Alors, Paris, bon, tout le monde connaît. La Bourgogne, c'est plus grand que Paris. Alors, où en Bourgogne ? Et là, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes en Côte d'Or, à Saumur en Auxois. Quel est votre lien avec la Côte d'Or, la Bourgogne et plus précisément Saumur en Auxois ?
Alors, d'origine bretonne, effectivement, pour les grands-parents. Arrivé à l'âge de 1 an, mes parents décident de revenir en Bourgogne parce qu'ils avaient des attaches ici. Et donc, j'ai fait toute ma scolarité, toute ma jeunesse, je l'ai passée à Saumur en Auxois. Donc ville de cœur, région de cœur.
Donc scolarisé à Saumur en Auxois.
Scolarisé à Saumur en Auxois, l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée. Ensuite, je suis parti étudier un peu sur Dijon. C'est pour ça que je dis que c'est ma région de cœur. Et je ne connaissais pas la Bretagne plus que ça, à part pour les séjours en vacances, hein, comme beaucoup. Ensuite, je suis parti sur Dijon, Mâcon, après Marseille, petite infidélité à la Bourgogne. Ça a duré 2 ans. Et pour ma profession, pour mon parcours, bon, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, sur l'évolution par rapport à la radio et à la télévision, j'ai entamé une carrière nationale et donc je suis monté sur Paris. Voilà. Donc, effectivement, Paris pour la profession, pour le travail et la Bourgogne pour les loisirs, on va dire.
Donc à l'heure actuelle, vous avez toujours un pied à terre ?
Et j'ai toujours un pied à terre en Bourgogne et je fais des allers-retours toutes les semaines quasiment entre Paris et la Bourgogne.
Alors vous avez un parcours impressionnant. Je dis cela sans flagornerie, Loïc Rousseval, parce que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui rêvent de devenir célèbres. La radio, la télévision, je parle des grands, grands médias. Même si Radio n'est un beau média. Mais, Europe 1, CNews, iTélé, France 3, familièrement, j'ai envie de dire, ça parle un peu tout de même. Alors justement, à 15 ans, vous êtes passionné de radio. Donc vous avez bénéficié de cette vague des radios locales. Parce que quel âge vous avez, Loïc ? Vous êtes bien plus
44
jeune.
44 ans.
Ah oui, vous êtes bien plus jeune.
44
moi,
ans
je le
et
savais.
Je suis né en 1981, l'année des radios libres.
Oui.
Voilà, donc ça, c'est une jolie anecdote.
Et effectivement, une antenne vissée dans le nombril.
Bah, presque.
Un émetteur dans le nombril.
Sans le savoir. Et pour la petite histoire, donc à l'âge de 14 ans, même un peu avant 15 ans, lors de l'année de 3e, il fallait choisir un stage, une entreprise. Et puis, il y a une radio qui s'appelle aujourd'hui Auxois FM et qui s'appelait Radio Escargot à l'époque, à Venard-et-les-Laumes. Et à l'âge de 14 ans, je passe devant à pied comme ça. Et je me dis, mais en même temps, pourquoi pas faire mon stage dans une radio ? Après tout, c'est peut-être une entreprise comme les autres, pourquoi pas ? Et je décide de faire mon stage là-bas, ils me prennent. Et je fais une semaine de stage, hein. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui.
De la technique, de l'animation ?
Alors, d'observation, stage de troisième, observation. Enfin, à l'époque, c'était de l'observation. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'observe pendant une semaine. Le métier d'animateur, présentateur radio me plaît. À la fin de la semaine, le responsable de la radio, qui s'appelait Dominique Château, je m'en souviendrai toujours, qui aujourd'hui, c'est Manu Latteux, me propose d'enregistrer une petite rubrique, une recette de cuisine. Mais en off, voilà. Vous avez observé, j'étais avec un copain de classe, vous avez observé pendant une semaine le métier de la radio. Enregistrez-moi une petite rubrique cuisine et puis ça vous fera un petit souvenir. Bon, j'enregistre la rubrique Et là, le responsable de la radio de l'époque me convoque après et me dit écoute, c'est incroyable, tu as quelque chose, tu devrais continuer la radio, il y a quelque chose à exploiter, c'est très bien. Bon, voilà, très surpris. Et à partir de là, tout simplement, j'ai été mordu par la passion de la radio, et je me suis pas arrêté pendant 30 ans.
Mais alors, quelles études avez-vous faites, là, à Dijon, alors, en à parallèle, Macon, Marseille, alors ?
Alors, justement, le problème des études...
Là, je suis curieux, parce que la quatrième de couverture ne nous le dit pas.
Non, alors, c'est tout simplement parce que je suis un autodidacte. J'ai passé beaucoup plus de temps à la radio, et on va voir la suite du parcours après, mais plus de temps à la radio ou à écouter la radio qu'à l'école, ce qui fait que j'ai uniquement un bac. J'ai entrepris des études de journaliste, mais sur le tard, beaucoup plus tard, à 30 ans. Et niveau études, voilà, bac sciences économiques et sociales, une année de sociologie à la faculté de Dijon. Mais le problème, c'est que je passais mon temps sur les radios locales, le week-end sur Coloriage, qui est une radio aux alentours de Semur-en-Auxois, qui était basée à Fin-les-Moutiers, de mémoire, et Radio Campus, la radio du campus de Dijon. Donc le mauvais élève, quoi. Beaucoup à la radio, mais pas beaucoup dans l'amphithéâtre et dans les salles de cours. Et j'ai repris des études un peu plus tard, en parallèle, en travaillant. Parce que, je dis ça aujourd'hui, mais c'est pas spécialement bien. Alors, pour moi, ce qui est le plus important, c'est quand même de trouver quelque chose qui nous plaît. Voilà. Et ça ne m'a pas desservi. Je ne suis pas le seul dans ce métier à avoir appris le métier sur le tas, de s'être inspiré des gens qui avaient d'expérience et de ne pas avoir fait des études. Je crois que je fais partie un peu des derniers, parce que c'était souvent les gens, les Foucault, les Michel Drucker, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Eux, effectivement, il n'y avait pas d'études, c'était la passion. C'est des gens qu'on appelle ça apprendre sur le tas. Et je fais un peu partie de cette dernière génération à avoir appris sur le tas, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de journalistes, il y a beaucoup d'écoles sur la radio, sur la télévision, mais à mon époque, moi, il n'y en avait pas. Voilà.
En feuilletant votre QCM, m'est revenu un souvenir très personnel. Lorsque j'étais adolescent, ma mère me poussait et m'encourageait énormément à devenir présentateur météo. C'est très amusant parce que, et en fait, pour moi, je suis navré, Loïc, pour moi, c'était hors de question. Pour moi, c'était pas du tout chouette d'être présentateur météo. Bon, finalement, j'ai fait d'autres choses, mais c'est très amusant. Et comme quoi, les femmes sont particulièrement aussi séduites par les présentateurs météo.
C'est une chance d'avoir une mère qui vous pousse à faire un métier artistique ou un parent qui vous pousse à faire un métier artistique.
Enfin, ça m'est revenu ce souvenir de ma mère qui disait... Mais je crois que c'était le jeune Laurent Romeschko
Mais pourquoi ? Parce qu'il y a... Alors, pour revenir au métier de présentateur météo, il y a une proximité entre les présentatrices, présentateurs météo et les téléspectateurs qu'on trouve dans aucun domaine. C'est incroyable. Dans le monde du journalisme et de la télévision. Peut-être éventuellement avec quelques présentateurs sportifs, mais il y a cette proximité. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse à tout le monde, parce qu'on est un peu la petite respiration à la télévision, à la radio. On ne donne pas des informations anxiogènes.
Ah, ça dépend.
Oui, c'est vrai qu'en plus avec le changement climatique.
Oui, maintenant.
Oui, mais voilà.
Avis de tempête, grand froid.
Oui, mais c'est des phénomènes naturels, on va dire. Voilà, c'est pas de la. Au milieu de toute cette information anxiogène, je veux dire.
Oui.
En général. C'est vrai qu'on parle à tout le monde, il y a cette proximité, c'est la petite respiration. Il y a une question aussi d'habitude, en fait, souvent lorsqu'on est à la météo, les places sont très chères, très rares, mais lorsqu'on y est, il y a vraiment une proximité qui se crée et une habitude aussi. Et c'est vrai que quand pendant des années, on voit la même personne et on regarde un peu tous les jours la météo pour savoir, ça touche tout le monde, hein, pour savoir comment on s'habille, pour comment on habille les enfants. Ça a un impact effectivement sur les secteurs économiques.
Le moral des gens parfois.
Le moral aussi, on est tous météo-sensibles. Et c'est vrai qu'à force de regarder régulièrement, on fait un peu partie de la famille. Et les gens s'habituent à nous. Et on n'est pas si nombreux que ça, d'ailleurs.
Et qui détient le record de longévité de présentation de la météo? Je pensais à cette charmante femme sur TF1.
Pour moi, c'est Evelyne Delia. Catherine Laborde a passé beaucoup de temps. Alain Gillot-Bétré, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui a marqué énormément les gens, mais qui n'a pas fait aussi longtemps. Laurent Romeshko, avec qui j'ai beaucoup travaillé, plus de 30 ans de carrière.
Il y a des questions justement sur les présentateurs météo, puisqu'on en parle. Michel Cardoz, vous savez, avec ses moustaches blanches là, sur TF1, de 87 à 91, donc Gillot-Bétré, 9000 bulletins météo.
Oui, quand même. Oui. Bon.
Il y avait Patrice Drevet, moi j'aimais Patrice bien, Drevet, il était très original à l'époque. Il a 77 ans.
D'ailleurs, j'ai cité Patrice Drevet dans le livre, et je lui ai présenté il y a quelques mois, je lui ai dit qu'il était dans le livre. Voilà, j'ai essayé de faire des petits clins d'œil, effectivement, historiquement, à tous ces présentateurs, présentatrices et présentateurs météo. Ouais.
Et Louis Baudin, qui est moins chevelu que vous.
Oui.
Alors, on a... J'espère un petit peu mise en place les éléments de présentation du parcours. Alors, les radios tout de même, Europe 2, MFM, France Bleu, Le Mouv', Rire et Chanson. Là, vous ne faisiez pas de la météo, vous participiez à des animations.
Alors, je vais revenir effectivement après les radios locales. Je fais un stage à France 3, Bourgogne, à Dijon. Après un autre stage à Europe de Bourgogne, et à la suite du stage à Europe de Bourgogne, on me propose un poste au début pour m'occuper de la planification de la pub. Ça ne fait pas rêver, parce que techniquement, remplir les écrans de pub dans l'ordinateur, mais voilà, premier job.
Mais ça remplit les caisses de la radio.
Ça remplit les caisses de la radio, et c'est le premier job, et j'accepte. Et rapidement, on me propose un poste d'animateur sur Europe de Bourgogne. Pour faire mes armes, je pars à Europe de Mâcon. Ensuite, je reviens à Europe de Dijon, et ça devient une plateforme régionale avec une diffusion sur Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Le Creusot. Après, dans le groupe Lagardère à Europe, je pars à Europe de Marseille dans le but d'aller sur une radio nationale. Donc, on me propose d'aller sur dans une ville un peu plus grosse. Et à l'issue d'Europe de Marseille, j'arrive effectivement sur Europe de Paris quelques années plus tard.
Vous n'avez pas fait d'autres métiers que de la communication radio, ensuite
télévision. Non, c'est
il n'y a pas un Loïc Roosevelt qui un temps fait, je ne sais pas, alors, moi, du maraîchage bio ou du commerce.
Si, justement, avant d'avoir un vrai poste en radio, j'ai nettoyé les sous-sols des HLM de la ville de Semur-en-Auxois quand j'étais jeune. J'ai travaillé pour une agence de propreté. J'ai travaillé au McDonald's à Dijon lorsque j'étais à la fac. Des petits boulots comme ça. J'ai été aussi réceptionniste pour un château en Côte d'Or. Voilà, avant d'avoir vraiment mon premier salaire, mon premier cachet à la radio.
On va marquer... Oui, pardon,
oui,
Loïc.
Je vous en prie.
Non, je vous ai interrompu. Peut-être que vous aviez...
Non, j'étais l'arrivée, effectivement, à Paris en national, mais on y reviendra dans un court instant. Bien.
On marque un premier intermède musical dans ce wagon-livre avec un titre qui figure dans le QCM Météo et Climat de notre invité Loïc Roosevelt. C'est le titre d'une princesse de Monaco, vous rappelez, Comme un ouragan. Un petit clin d'œil, on l'écoute et on se retrouve juste après, toujours avec notre invité Loïc Roosevelt et le public du Cercle des auteurs bourguignons.
Je vous remercie.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le QCM Météo et Climat de Loïc Rousseval, qui est notre invité aujourd'hui dans l'émission littéraire de Radion. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à midi et que cette émission a été enregistrée alors qu'il faisait grand froid, que nous avions un épisode neigeux légèrement préoccupant. C'était le 20 novembre dernier.
À la saison.
Oui, à la galerie de peinture de Yannick Perrin, donc Loïc Rousseval qui nous accompagne, ainsi que vous, auditrices et auditeurs, et notre chaleureux public. Alors Loïc, on a abordé votre parcours. Maintenant, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la présentation, tout de même, surtout à la télévision. Du bulletin météo. Il y a cet exercice extrêmement difficile où il faut placer ses mains pour montrer qu'il va y avoir du soleil à Tours, etc. Et que vous êtes, que c'est inversé, que vous êtes sur un fond de couleur unie et que c'est très compliqué finalement.
C'est très compliqué, oui.
Et là, il n'y a pas de cours.
Alors c'est justement, débrouille-toi. Pour la petite anecdote, je venais de la radio après avoir animé sur Europe 2 en national. Après, j'enchaîne sur MFM, Rire et Chanson, des radios musicales, Le Move, France Bleu. Et arrivé à 30 ans, ayant commencé très très jeune à 14 ans, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour. Ce qui est assez incroyable, mais le ressenti, l'impression, ayant commencé, ça faisait déjà plus de 15 ans de radio. Des radios locales, radio nationale, radio musicale, radio généraliste. Et j'ai ce sentiment de me dire, j'ai déjà fait un peu le tour et un peu vu tout ce qui pouvait se faire en radio, mais normal, ayant commencé aussi jeune. Donc je décide de me lancer dans autre chose. Et j'avais un ami qui animait sur la chaîne Météo, qui était animateur radio également, et qui s'appelle Pascal Hernandez. Et je lui fais part de mon envie peut-être de faire de la télévision. C'est à partir de là que je reprends une formation et que j'effectue une formation CFPJ en journalisme. Parce que pour intégrer une chaîne de télévision et présenter la météo, il faut être journaliste. Et moi, j'étais qu'animateur. Et après la formation, grâce à mon ami, j'intègre la chaîne Météo et je me retrouve confronté à un problème par rapport à la radio. C'est qu'à la radio, on parle beaucoup avec les mains, les bras, parce qu'on n'a que la voix. Et pour mettre l'accent sur des mots, pour s'exprimer, on fait énormément de gestes. Et j'avais un peu ce défaut-là, c'est que je faisais énormément de gestes lorsque je parlais. Donc, dès que je me suis retrouvé devant une caméra, j'avais un problème parce que je parlais comme ça. Donc il a fallu... Je parlais comme ça en bougeant énormément les bras, même si on ne le voit pas. Mais on n'a également que la voix, donc il fallait énormément articuler. Donc souvent à la radio, on a tendance à parler comme ça. Sauf qu'à la télé, ça ne va pas. Les bras qui bougent dans tous les sens et la bouche qu'on essaie d'articuler, ça passait pas du tout. Donc une vraie catastrophe en arrivant à la télévision. Donc il a fallu que je m'habitue à parler normalement sans accentuer pour articuler. Et il a fallu que je contrôle mes gestes en parlant. Et donc deuxième problème, la météo, effectivement, c'est très compliqué pour présenter. Alors ça va pas... C'est pas vraiment radiophonique, hein, ce que je vais dire, mais on se retrouve effectivement devant un fond vert ou un fond bleu pour diffuser la carte derrière nous. Aujourd'hui, ça a évolué. Parfois, on a vraiment la carte derrière nous, mais ça va pas être facile à imaginer à la radio. Mais si nous, on regarde la carte pour vous donner les infos, on est dos à la caméra. C'est-à-dire qu'on se retourne. On est d'accord. Donc, il faut que les retours de la carte soient sur le côté, pour qu'on s'adresse en même temps aux téléspectateurs. Sinon, on serait complètement dos aux téléspectateurs si on regardait notre carte. Donc, c'est pour ça qu'on a des retours sur le côté. Le problème, c'est qu'en regardant ces retours, ça peut être soit sur la gauche, ça peut être à droite, ou ça peut être les deux. En regardant les retours, pour montrer les villes, pour montrer les zones, c'est complètement inversé par rapport à la réalité. Intellectuellement, c'est compliqué parce que dans votre tête, si on vous demande montrez-moi Strasbourg, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est de mettre le bras en haut à droite et dire Strasbourg, c'est en haut à droite. Alors nous, à la télé, on fait deux pas sur le côté, on prend le bras gauche et on le met plus loin pour montrer Strasbourg. Ça n'a rien à voir avec la logique. Donc, effectivement, on est complètement perdu. Et après, pour être précis et vraiment montrer une ville et tomber pile poil sur la ville, il faut beaucoup d'entraînement. C'est une mécanique et ça prend des mois, voire des années à mettre en place. Il y a aussi une histoire de... Il faut être parallèle soit au fond vert, soit au fond bleu ou à l'écran. Il faut que le bras soit parallèle. En plus, donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte.
Donc il y a plein d'enregistrements parce que parfois il y a des ratés.
Non, bah non justement, non, 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 non pas tant que ça. Il y a le direct déjà.
Il y a le direct,
quand
d'accord.
En direct, voilà.
Là, c'est terrible. Non, mais... non. Il n'y avait pas de séquence enregistrée. Non, alors, enfin, la météo est tellement changeante, évidemment.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'a pas l'habitude ou qu'on arrive sur une chaîne, au début, on ne monte pas trop. C'est pour ça que vous allez voir des présentatrices ou présentateurs météo qui débutent, ils restent assez fixes. Et ils parlent comme ça, ils ne montent pas trop, ils n'osent pas trop s'aventurer, parce qu'une chance sur deux pour montrer à côté. C'est plus une histoire d'habitude et à force, avec l'expérience, on va parfois même, sans regarder, je vais mettre le bras et je vais montrer une ville. Et je vais tomber pile poil dessus. Mais ça vient avec l'habitude. Okay. Par contre, ce que les gens ne savent pas, un présentateur météo qui change de studio... ou qui change de chaîne de télévision, les repères sont plus du tout tout à fait les mêmes. Parce que les retours sur le côté vont plus être au même endroit. La ligne devant l'écran, on doit rester parallèle, va pas être tout à fait au même endroit. La taille du rideau vert au rideau bleu derrière va pas être exactement pareil. Donc on recommence à zéro à chaque fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois sur une chaîne de télévision, on a plusieurs studios. Donc c'est vraiment beaucoup de difficultés et une mécanique déjà très compliquée. Mais en plus, c'est comme si on nous mettait un peu des bâtons dans les roues parce qu'on n'est pas toujours dans le même studio. Même si le téléspectateur ne va rien voir à l'antenne. Mais si on a différents studios ou si on change de chaîne, de télévision, il faut recommencer à zéro. Et donc on repart sur une période de plusieurs semaines où on montre un peu moins. Et on essaie de gommer.
Pas facile de faire la pluie et le beau temps quand on est présentateur météo. Je rappelle le QCM Météo et Climat donc, de Loïc Rousseval avec des illustrations de Jérém. Alors vous l'avez trouvé où, l'illustrateur de ces dessins joyeux autour du climat et de la météo? Un ancien camarade ou est-ce que
tout.
C'est les éditions Lire à l'Est qui vous l'ont suggéré?
C'est quelqu'un que je suivais depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Jérém Illustration, Jérém c'est quelqu'un qui... Il y a beaucoup de personnes qui le suivent. On parle quand même de 52 000 followers. Hein. Voilà, ça rigole pas. Et c'est vrai que lorsqu'il postait ses dessins, je trouvais ça super, génial. En plus, régulièrement, on le disait tout à l'heure, mais comme la météo touche tout le monde, bah forcément, il y avait des dessins de météo.
Non, puis il y a vraiment des dessins qui sont très sympathiques. Par exemple, le canard tout à la fin qui a son bonnet sur la tête et qui dit « il fait un froid de connard aujourd'hui ». Ça me plaît énormément.
Ça, c'est pour la partie adulte, hein. C'est pas pour la partie
oui,
enfant,
alors,
nous sommes bien d'accord.
Il faut bien préciser que ce QCM, effectivement, a deux parties. Une partie enfant, adolescent,
plus mignon, avec des dessins plus mignons, plus gentils.
Mais il y a des dessins qui sont vraiment charmants, là, quand on voit le sorte de Saint-Pierre sur son nuage, avec son auréole, et puis, donc il est sur un nuage qui déverse des trombes d'eau, et puis à côté, il y a un plombier qui essaie de colmater la fuite, et donc ce Saint-Pierre qui dit, il va falloir se dépêcher, ça commence à gueuler en dessous.
Alors justement, pour revenir à Jérém Illustration, pardon, j'aimais bien son univers. En plus, il postait régulièrement des dessins sur la météo. Et en tant que présentateur météo, je me suis amusé à partager ces dessins autour de la météo sur les réseaux et sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et les gens appréciaient. Et lorsque j'ai... écrit le livre, je me suis dit ça peut être sympa de l'illustrer. Je vais faire une compilation de tout ce que j'ai partagé de Jérém Illustration autour de la météo et je vais le contacter Et je lui ai demandé si ça l'intéresse de participer au projet et d'illustrer mon livre sur la météo et le climat. Alors, là, avec ses dessins muraustiques.
Les dessins, ils sont originaux, spécialement faits pour vous?
Non,
oui,
non. Non, non.
Déjà
non, justement,
en fait. Oui,
j'ai voulu prendre ceux que je trouvais le plus sympathiques, les meilleurs. Le seul dessin original, c'est la couverture, tout
d'accord,
simplement, puisqu'il a fait un dessin pour l'occasion. Mais c'était des dessins existants.
Il y en a un aussi qui est très bien par rapport aux vagues de chaleur, aux canicules. Hein, on voit donc la caricaturé appuyé contre une clim, Clint Eastwood. Et en fait, c'est le seul qui peut te refroidir en 5 minutes, Clim Eastwood. Ça, c'est très bon. J'adore ces jeux de mots qui sont subtils. Alors, parlons un petit peu du réchauffement climatique parce que c'est un sujet qui n'est plus anodin quand même. Alors il y a des sceptiques, il y a des optimistes, il y en a qui disent que ce sont des cycles. Mais enfin, il semblerait que les activités humaines commencent à sérieusement dégrader le bel équilibre d'une planète qui était à peu près normale, alors qu'aujourd'hui les éléments se déchaînent. En France et aux quatre
et pas
coins
seulement,
du monde.
Dans le monde, absolument. Et ça fait plusieurs décennies qu'on en parle. Je pense qu'il y a quelques décennies, ce n'était pas vraiment pris au sérieux. Ces dernières années, il y a eu quand même un déclic, une prise de conscience. Et il s'avère qu'effectivement, les rapports du GIEP, le groupe international sur l'évolution sur le climat, les études de Météo France montrent qu'il y a un réel changement climatique. On parle davantage de changement climatique parce que le changement climatique ne veut pas dire spécialement réchauffement climatique, uniquement réchauffement climatique. Souvent, on parle du changement lorsqu'il y a des canicules, des très fortes canicules et un réchauffement. Mais un changement climatique ou un dérèglement du climat, c'est aussi des périodes très froides. Ça, il faut le préciser, ça ne veut pas dire qu'il va faire toujours plus chaud. Alors, au global, effectivement, la température est de plus en plus élevée, mais ça crée un dérèglement climatique, ce qui fait qu'il peut y avoir des périodes très froides, mais à des saisons où normalement, ce n'est pas normal. Ça peut mettre l'accent. Donc, il y a un dérèglement climatique au niveau national, au niveau mondial. Ça crée des épisodes pas plus réguliers, mais plus intenses. C'est-à-dire que les épisodes cévenols ou les épisodes méditerranéens dans le sud, il y en a toujours eu. Sauf que les derniers sont de plus en plus intenses. Ils ne sont pas de plus en plus réguliers, mais de plus en plus intenses. Les orages, c'est pareil. Des orages, il y en a toujours eu l'été, mais ils sont de plus en plus intenses. Les précipitations sont plus fortes. Les ouragans. Les cyclones, en quantité, ils ne sont pas plus nombreux, mais par contre, on parle plus de catégorie 4, 5, alors qu'avant, c'était 3. C'est le problème. Et même tout ce qui est événement climatique, je me souviens, c'était en 2022 ou 2021, je ne sais plus, les inondations en Allemagne. Des trompes d'eau, l'Allemagne complètement inondée.
On a jamais eu des glissements de terrain.
Des glissements de terrain, on n'a jamais vu ça.
Alors, fatalité?
Non, résultat, effectivement...
On ne peut pas tellement faire marche arrière, en dépit de toutes les COP. Là, c'était la 31e, je crois, à Belém,
Les COP sont importantes. Après...
les États ne jouent pas le jeu.
La nature s'adapte aussi, ouais. Et l'être humain s'adapte aussi, donc on va s'adapter. Il faut savoir... Alors, je travaille régulièrement avec le climatologue Jean Jouzel. Tous les petits gestes qu'on fait au quotidien, recycler ses déchets, rouler en électrique...
Débrancher les prises des appareils en veille électrique,
voilà.
Ça économise de l'argent.
Ça réduirait quand même l'émission de CO2 de 20%. Donc, c'est pas négligeable. C'est vrai que si tout le monde peut faire un peu, ça aidera. Et par rapport à ça, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, parce que lorsque j'ai sorti le jeu chez Larousse avec Laurent Romeshko, le grand quiz Préservons la planète, J'ai fait le tour de nombreuses écoles et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé et qui m'a rassuré. Je me suis adressé à beaucoup de jeunes entre 7 ans et 12 ans. Et ces jeunes étaient vraiment sensibles à l'état de la planète, au changement climatique. Je pense qu'ils en parlent énormément à l'école, ils en parlent énormément entre eux. J'ai deux enfants de 5 ans et de 11 ans. Le plus grand, à l'âge de 8 ans déjà, avait le réflexe de vraiment de couper les lumières. Dès qu'il y a un papier par terre, il le ramasse. Et j'ai confiance en cette génération-là. Parce que je pense qu'ils vont trouver énormément de solutions pour éviter effectivement de plus en plus de catastrophes et de préserver la planète. Et c'est vraiment cette génération-là qui m'interpelle et j'ai confiance en ces jeunes.
À suivre donc, à suivre aussi notre échange avec Loïc Rousseval, puisqu'on va marquer un nouvel intermède musical. Je rappelle qu'il signe chez l'IRALES, le QCM Météo et Climat. Un livre dans l'air du temps avec, alors on dit les illustrations de Jérém. Hein,
les illustrations, hein, de,
les
Jérém.
Illustrations de Jérém. Notre émission marque un petit intermède musical. On revient juste après, toujours avec notre public sur Radion.
Je veux